Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, vous êtes, nous sommes sur les eaux libres et libertaires de Classique 21. Heureux de vous savoir à mes côtés sur le pont de ce cargo. Ah, je pense que mes amis du Love Unlimited Orchestra ont eux aussi envie de vous saluer. Mais oui, welcome aboard, bienvenue à bord du Radio Caroline qui, récemment, traversait le lac Michigan pour accoster dans le port de Chicago, l'occasion alors d'évoquer quelques réjouissants chapitres pop et contre-culturels vécus par cette ville. Épisode à retrouver en podcast, bien sûr. Chicago, où nous avons aussi fait par ailleurs un petit détour en Harley Davidson dans les roues des membres du Outlaws Motorcycle Club, gang de motards hors la loi, né dans la banlieue de Chicago. Autre épisode à écouter sur les plateformes. Mais il y avait encore quelques passionnantes histoires à évoquer issues de cette ville. Celle chaude du manoir de Hugh Hefner, fondateur de l'empire Playboy. Celle de la Convention démocrate qui, en 1968, se terminera en émeute policière. Celle d'un jazzman liégeois, Jacques Pelzer, qui joua dans les clubs de la ville. Celle d'une émission musicale culte de la télévision américaine, Soul Train. Et enfin, toujours à Chicago, celle de la mort violente, bien que provisoire, du disco en 1979.
Pour des raisons de droit d'auteur, ce podcast ne contient que des extraits musicaux. Retrouvez la version intégrale sur OVIO.
Hugh Hefner est né à Chicago le 9 avril 1926 et c'est là dans cette ville qu'il créera le magazine Playboy en 1953 et d'où il lancera les clubs Playboy dès 1960. Chicago, où il a vécu assez longtemps, organisant en son célèbre manoir, une majestueuse demeure du 19e, d'interminables parties au cours des années 60 et dans la première moitié des années 70, entre ses bunnies, fameuses hôtesses habillées en lapine, et de prestigieux invités évoluant dans le monde des affaires, du showbiz et de la politique. Et c'est en sa propriété qu'en mai 1967, une équipe de la télévision française rencontre Hefner avant de laisser traîner micro et caméra dans certains de ses clubs.
Hugh Hefner vit dans ses appartements comme aurait vécu un pharaon à l'intérieur d'une pyramide. Il ne sort jamais. Toutes les fenêtres de la maison sont condamnées. Il n'y a pas de pendule.
Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de travail que vous ne sortez jamais de chez vous ?
Ben oui, en partie, parce que ces deux dernières années, je me suis consacré à écrire. Je suis un peu dans la position d'un romancier qui décide de travailler à un livre en particulier et qui se retire de la société le temps de l'écrire. Mais de toute façon, sortir pourquoi ? La maison ici est assez unique.
Oui, cette maison est unique en son genre, avec au sous-sol une piscine chauffée et une cuisine qui fonctionne 24 heures sur 24. Puisqu'il n'y a pas d'horaire dans la maison, les employés doivent pouvoir servir des repas à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et comme Hugh Hefner ne sort jamais, il a fait aménager une douzaine de chambres d'hôtel pour ses invités. Au dernier étage habitent une vingtaine de bunnies, ces hôtesses qui officient au club déguisées en lapins. Elles vivent d'une vie communautaire en dortoir, comme dans un pensionnat. Cette régie de télévision a coûté 40 millions d'anciens francs. Puisque Hugh Hefner ne sait pas l'heure à laquelle il vit, il lui est difficile d'ouvrir son poste de télévision à l'heure précise où passe un programme qu'il a envie de voir. Il fait donc enregistrer sur magnétoscope les émissions qui l'intéressent et, grâce à un circuit fermé, en appuyant de sa chambre sur un bouton, il regarde, quand il veut, le programme de son choix.
Well, I'm afraid that...
Je crois que Playboy représente un phénomène tellement unique qu'il est bien difficile de tirer une leçon de tout ce qui s'est passé. Nous avons eu une telle succession d'incidents qu'il serait impossible de les énumérer. Le magazine a commencé sans rien, sans aucun moyen. J'ai vendu mes meubles pour $600. Puis je me suis tourné vers des amis, j'ai trouvé $50 par-ci, $100 par-là, j'ai fini par réunir $5,000. C'est avec ça que j'ai commencé, voilà.
$50 worth of stock here and $100 there and amassed a total of around $5,000 and that was it.
On dit ici aux États-Unis que vous avez créé une nouvelle philosophie, une philosophie playboy. Qu'est-ce que vous en pensez?
I've always been interested in a lot of...
Eh bien, ces sujets m'ont toujours intéressé. Ma formation universitaire dans l'Illinois a été la psychologie, la recherche sociale. J'ai toujours été intéressé par les problèmes humains, par les problèmes que pose la vie en société. Il y a quelques années, nous sommes arrivés à un point où Playboy s'est tellement développé avec cette floraison des clubs et des produits Playboy. Et il se dégageait en même temps des traits tellement particuliers, tellement caractéristiques de notre public, qu'un certain nombre de gens se sont mis à discuter et à analyser le phénomène Playboy d'un point de vue social. On a voulu définir ce que défendait et représentait Playboy. J'en suis d'ailleurs venu personnellement à penser que si l'on devait absolument m'approuver ou me condamner, j'aimerais autant que ce soit pour ce que je crois vraiment, plutôt que pour ce que l'on suppose que je crois.
En réalité, si l'on vient au Playboy, ce n'est pas tant pour les idées philosophiques de M. Hefner que pour les bunnies. Elles sont 800 aux États-Unis. 800 qui ont été sélectionnées parce qu'elles ont un joli visage, une jolie silhouette et un caractère agréable. Elles viennent de tous les milieux. Certaines sont étudiantes, d'autres mannequins. Il y a des Anglaises, des Scandinaves, des Allemandes, quelques Belges, Suisses et Françaises.
Nous avons une bunny qui reçoit les membres d'une façon aussi stylisée que le service à la table. Et quand un couple s'amène, plus souvent que pas, il est très amusant de voir l'homme sourire à la bunny, alors que la femme le devance par deux ou trois pas, l'attend impatiemment et trouve l'expérience un peu ennuyeuse.
En 1967, toujours, l'interview d'une Playboy bunny belge.
Où êtes-vous originaire ?
La Belgique.
Il y a longtemps que vous travaillez au Playboy ?
2 semaines.
Oh, c'est tout nouveau alors.
Oh oui.
Ça vous plaît?
Oh très.
Qu'est-ce que vous faisiez avant?
J'étais secrétaire.
Où ça, en Belgique ou aux États-Unis?
Non, ici à Chicago.
Et pourquoi vous êtes devenue bunny?
Oh, pour l'argent, pour l'aventure.
Pour l'aventure? Vous êtes venue chercher un mari ici?
Non, non, non. C'est possible, mais c'est pas pour ça que je suis venue.
Et vous dites pour l'argent, pourquoi? Parce que vous gagnez beaucoup plus d'argent ici comme secrétaire?
Oh, c'est faire 60, environ $60 par jour ici.
$60 par jour, c'est pas mal. Et en pourboire, ou quel est votre salaire?
En pourboire, il n'y a pas de salaire.
Vous n'avez pas de salaire?
Non.
Vous me disiez que vous êtes venu pour l'aventure, mais vous avez beaucoup de vos amis qui se marient ici?
Il y en a plusieurs, oui.
Avec les clients?
J'en sais rien, je sais qu'il y en a énormément qui sont mariés. Je ne sais pas si c'est avec les clients ou avec le personnel.
Mais je croyais qu'il était interdit de prendre des rendez-vous avec les clients.
C'est interdit. Mais il y a toujours une excuse dans tout, vous savez.
Oui, le règlement n'est pas tellement strict.
Assez strict, si on l'apprend, on sait vous emballer, mais on peut toujours faire un rendez-vous derrière le coin.
Oui. Et ça ne vous dérange pas de vous, ce costume, non?
Si, au début, j'étais un peu gênée, mais je commence à m'habituer. Il y en a tellement des filles ici.
Et le comportement des hommes avec vous, comment est-il?
Pendant les jours, les hommes sont vraiment gentils et ce sont des hommes d'affaires qui viennent ici pour discuter des affaires. Et ils n'ont qu'une demi-heure, une heure pour manger, puis ils partent. Et le soir, c'est différent.
Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est différent?
Le soir, les gens viennent ici, les hommes viennent ici pour voir les bunnies. Et alors, pour les toucher, tout ça, c'est pour ça que j'aime pas travailler le soir. Je travaille pas le soir.
Alors là, ce n'est pas très agréable,
non,
le soir.
Non. Il faut dire qu'il y a un règlement ici que les bunnies ne peuvent pas être touchés.
Oui, ah. Est-ce que vous croyez qu'une maison comme ça, enfin un club comme ça, marcherait en France ou en Belgique?
Oh, énormément, je crois bien.
Vous croyez?
Oh oui.
Vous croyez pas que c'est typiquement américain, non?
Ce serait typiquement américain, c'est justement pour ça que je crois que ça irait très bien là-bas.
Le 28 août 1966, ce sont d'éminents membres de la convention du Parti démocrate qu'Hugh Hefner accueille en son manoir. Convention qui se déroule à Chicago et au cours de laquelle ce parti doit choisir son candidat pour affronter Richard Nixon lors des élections présidentielles de novembre. Des politiciens chez Playboy? Et pourquoi pas? Il faut dire que les hippies et le Summer of Love sont passés par là, que le monde a changé et que les valeurs libertines de M. Hefner sont désormais partagées par une grande partie de sa génération. Mais ce même 28 août 1966, des milliers de manifestants se réunissent eux aussi au cœur de la ville, mais avec de tout autres intentions: protester contre la guerre du Vietnam, très impopulaire, alors que la question de sa poursuite est sous-jacente à cette convention entre un candidat qui est pour et des candidats qui sont contre. Et comme trois mois plus tôt, en avril 1968, dans la foulée de l'assassinat de Martin Luther King, Chicago a déjà connu, comme d'autres villes américaines, d'importantes émeutes raciales, le maire de la ville, qui veut protéger la réputation de sa cité à l'occasion de cette convention, a appelé 12 000 soldats et gardes nationaux en renfort. Côté manifestants, toutes les composantes de la gauche non gouvernementale sont là, y compris Bobby Seale, le leader du Black Panther Party, qui fera son discours avant de partir aussitôt sans prendre part à la manifestation, et ceux qu'on appelle les Yippies, membres du Youth International Party. Les forces de l'armée, casquées et chauffées à blanc, provoqueront ces jeunes pacifistes, les coups pleuvront et la manifestation tournera à l'émeute, comme le relate alors NBC News.
Thus, the night that Vice President Humphrey was to receive the Democratic Party's nomination for president was also the night of the bloodiest confrontation. Denied a permit to march to the amphitheater, they gathered in Grant Park, across the street from the now hated Hilton Hotel. The television mobile units, ordered a block away from the Hilton Hotel by Secret Service agents for security reasons, would be unable to shoot the initial provocation, which authorities later claimed started the bloody battle at Balboa and Michigan Avenue. But whatever the reason, a clash did occur, and this is what it looked like. It speaks for itself.
Les images parlent d'elles-mêmes, dit le journaliste de la NBC ce 28 août 1966. Et de fait, on y voit des policiers matraquer sans relâche des manifestants qui ne montrent pourtant pas de signes de violence. Replongeons au cœur de ces émeutes aux côtés de reporters en direct sur place.
The poor people had a permit and that's why they were allowed to get through. And I asked one of the poor people, and he said, I'm just a field marshal, I don't know. But I think it must have been because we applied for a permit. Now, you may have heard the yelling before. The others all feel that if they get out into the loop section, where...
There's a break in the arrests now. The police seem to be regrouping. And now moving off down Balboa Street, and the crowd is running, and the police are chasing them into Jackson, into Grant Park.
Pour info, côté démocrate, c'est finalement Herbert Humphrey qui remportera les primaires contre des candidats qui, contrairement à lui, étaient opposés à la guerre du Vietnam, comme George McGovern, Eugene McCarthy ou Robert Kennedy, frère de JFK, parti grand favori mais assassiné quelques semaines plus tôt après avoir gagné la première primaire démocrate en Californie. Au final, Humphrey sera bien sûr battu par Richard Nixon, Nixon, qui, on le sait, préférera les écoutes téléphoniques et celles des conversations dans leur bureau de ses opposants au murmure doucereux des Playboy Bunnies de Hugh Hefner.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Longtemps considéré comme un patron de presse libertaire et transgressif, Hugh Hefner verra au fil des années son étoile pâlir. En 1970, le Times le qualifiera, je cite, « d'antiféminisme vieillissant dont les représentations sexistes sont usées et dénuées d'imagination ». La même année, il sera malmené par des membres du mouvement américain de libération des femmes, le Women's Lib, sur le plateau du talk show de Dick Cavett. Et tout d'abord, après avoir parlé de ses interlocutrices en prononçant le mot « girls » plutôt que « women », alors que l'une d'elles, Suzanne Brown Miller, journaliste féministe bien connue, a 34 ans, comme elle le lui rappellera.
I'm more in sympathy than perhaps you know the girls realize with
women.
I'm sorry.
Yes, I'm 35.
Than the ladies realize. I use girls referring to women of all ages.
You should stop. You want to be called a boy?
That, like oh, I see. Okay.
Je pensais que c'était un compliment, tentera Hugh Hefner pour sa défense. Suzanne Brown Miller lui opposante ensuite que la façon dont il représente les femmes dans son magazine, réduite à des objets sexuels, est dégradante, sans parler des déguisements des bunnies, condition de leur engagement dans ces clubs, qui nient leur humanité, les femmes étant associées à des animaux. On attend le jour où vous sortirez avec une queue de lapin en coton accrochée au derrière, lui lance-t-elle sur le plateau de Dick Cavett. Hefner se justifiant en expliquant que ces images et ces tenues ne sont qu'une représentation sexy de la femme et que, de toute façon, beaucoup d'entre elles lisent Playboy.
The role that you have selected for women is degrading to women because you choose to see women as sex objects, not as full human beings.
Well, it obviously
hold on
degrading.
The day that you...
I want to say,
I haven't finished. The day that you are willing to come out here with a cottontail attached to your rear end... degradation of women a condition of employment in the Playboy clubs around the country. They have to get into these ridiculous costumes which deny their humanity and their femininity. You make them look like animals. Yes, women aren't bunnies. They're not rabbits. They're human beings.
All right. The Playboy symbol, the rabbit, of course, and the reason for having bunnies in the clubs, the symbol was originally a male figure, and it was picked quite innocently and simply some 16 years ago because we felt it was a rather playful and sexual symbol. The fact that the girls are dressed in costumes is no more complex than that. And the girls obviously don't find it degrading, or we wouldn't have as many working with us. In addition,
that's not true.
En 1975, un drame va faire vaciller l'empire Playboy et la vie de son fondateur. Une femme, Bobbie Einstein, l'une de ses amies assistantes les plus proches, se suicide par overdose de médicaments, alors que depuis plusieurs mois, la police la soupçonne d'être impliquée dans un trafic de cocaïne. Une enquête à travers laquelle Hefner en restera persuadé, c'est lui et son entreprise que les fédéraux cherchent à faire tomber. Une chasse aux sorcières anti-playboy à motivation politique, affirmera-t-il. Un dossier qui d'ailleurs n'aboutira jamais. Mais entre-temps, Bobbie Einstein, prise en étau, s'est donné la mort et pour beaucoup au sein du magazine notamment, la fête semble finie. Dévasté et désillusionné, Hefner, qui a déjà un pied à Los Angeles, quittera définitivement Chicago cette année-là pour rejoindre la Californie et y poursuivre ses activités. Sa vaste demeure, son manoir, étant plus tard cédé à l'Art Institute of Chicago, qui en fera une résidence universitaire. Hugh Hefner mourra en 2017 à l'âge de 91 ans. En 1984, une émission de la RTBF de Michel Rocha et Paul Paquet, Saxe en fugue, proposait un portrait du fameux jazzman liégeois Jacques Pelzer, qui accompagna de nombreuses stars américaines du genre, Dexter Gordon, Stan Getz, Bill Evans et bien sûr son ami Chet Baker. Pelzer, qui se produira aussi dans des clubs de Chicago dans les années 60, comme il s'en souvient ici en 1984, déambulant dans la ville, s'enquérant auprès de jeunes femmes noires de l'endroit où on peut encore écouter du jazz.
De nouveau Chicago. Et pour un musicien de jazz, ça sonne un peu comme la seconde ville après New York. Et c'est, voilà, dans les quartiers noirs de Chicago.
Yeah, very much. I was here 15 years ago.
15 years, you can't come back again?
Yes, where is the jazz club here at home?
They had jazz festivals up here.
When?
Is there a jazz club
here? It was in the
here?
Summertime.
Where?
It be in the summertime.
Oh, yes. It's yeah. over now.
Yeah, it's over
there
now.
There is not a regular club?
Huh?
There is not a regular club?
Uh-uh. If it is, I don't know anything about it.
No? The Met, what you are speaking, you were speaking
What's
about?
What's the Met? The theater here.
Yeah, it's a jazz theater somewhere, right?
Ah,
it's one well, downtown.
Theater,
right? Yeah, it's one downtown on Congress.
Sherwood,
yes. Right on
Congress.
Yeah.
Oh, I don't
want
to look
at
me.
Voilà, on demandait justement, c'est noir où était le club de jazz. Alors elle nous répond, non, c'est un lieu qu'en été, quand on était passé à ce moment. Elle dit downtown, elle nous répond, donc dans le bas de la ville, comme uptown, c'est souvent les quartiers noirs. Donc downtown, nous arrivons maintenant au centre de la ville. Il y a toujours des clubs de jazz. C'est une ville fascinante, tout à fait différente de New York. Mais on sent que le jazz est né aussi dans cette ville.
Du jazz, passons en ondulant et dansant à la soul et au genre qu'elle engendrera. Car c'est aussi à Chicago, en 1970, qu'est créé Soul Train, un programme télé local au départ dédié à la danse et qui deviendra le lieu non seulement de la musique noire essentiellement, mais l'ige de l'amour, de la paix et de l'âme. Diffusé à l'échelle nationale dès 1971 et jusqu'en 2006, Soul Train sera l'une des émissions les plus pérennes de l'histoire de la télé américaine. La longévité de ce phénomène culturel reposant sur Don Cornelius, créateur, producteur et animateur de ce voyage le plus branché d'Amérique, comme le dit son slogan.
Soul Train, the hippest trip in America. 60 non-stop minutes across the tracks of your mind into the exciting world of soul with special guest stars. And now, here is your host, Don Cornelius.
Hey there, and welcome aboard. You're right on time for another sweet ride on the Soul Train. You hold on to that spot you got. We'll be coming right back at you with a biggie by the Ohio Players, right up to some very important messages.
Le 17 août 1970, des jeunes font la queue autour du pâté de maison où se trouve le bâtiment du Chicago Board of Trade. Leur objectif ? Participer au premier enregistrement d'un nouveau programme de danse dans le petit studio de 10 mètres sur 10 mètres de WCIU en compagnie de jeunes danseurs noirs invités à montrer leur talent sur un plateau qui accueillera aussi bientôt les stars de la ville tels B.B. King ou Curtis Mayfield. Le concept de Soul Train n'est pas nouveau, cela fait une douzaine d'années que, sur la même idée, American Bandstand, lancé à Philadelphie avant de migrer à Los Angeles, cartonne et que chaque grande métropole propose un show du même genre. Mais Cornelius, lui, veut justement montrer la jeunesse noire d'une manière dont les médias nationaux ne les représentent pas à l'époque, en rendant aussi ce concept d'émission de danse plus frais, plus cool, plus audacieux.
The principal inspiration for Soul Train was American Bandstand and Dick Clark. I wanted to do a black bandstand.
It was just hard to get on shows like American Bandstand because they were mostly white oriented.
Dixit Eddie Levert des OJs. Mais réécoutons Don Cornelius.
When it came on, it was overnight hot. Almost in minutes, every black person in town knew about it. Not because it was such a wonderful show, but because it was theirs.
Associer les forces vives et noires de la ville s'est avéré une formule gagnante, qui plus est quand on sait, pour avoir écouté le premier épisode de Radio Caroline dédié à Chicago, combien une grande partie de la musique populaire américaine des années 50 et 60 en est originaire. Mais le succès de Soul Train l'entraînera bien vite à travers tout le territoire américain.
It took less than a year before we had some serious backing to take it into a national show.
De fait, un an après le lancement de Soul Train à Chicago, Don Cornelius décroche une diffusion nationale en syndication, comme on dit là-bas, sa production étant dès lors déplacée à Los Angeles. Mais une version locale filmée à Chicago et toujours supervisée, mais plus présentée par Cornelius, se poursuivra de longues années. L'un des highlights de l'émission, désormais réalisée en Californie, ce sont ces séquences montrant des duos de danseuses et danseurs anonymes, mais aussi doués que créatifs, vestimentairement parlant, entre autres, avancer en rythme, bien sûr, face caméra, et donc vers les téléspectateurs, le long d'une ligne de chemin de fer stylisée, la Soul Train Line. Entre 1971 et 2006, Soul Train traversera tous les courants de la musique noire. Noire, mais pas que. De grandes stars blanches qui désirent en être, comme David Bowie ou Elton John, y étant accueillies de grosses audiences à la clé. Et donc, je disais notamment Elton John.
I understand that you've been quite a fan of these kids for some time, is that right?
It's the only thing that you can look forward to on a tour. Apart from the sports programs on American television, I just watch it every week, and the whole band watches it, and it keeps us amused. It's great. We've been watching it for a long time.
It wasn't salesmanship on our part. They just called up one day and said Elton John wants to do Soul Train, and we like, fine, you know.
Elton John, David Bowie made music that if you didn't know who they were, you would have thought a black man made them records. That song, fame.
Là, c'est Snoop Dogg qui se souvient de David Bowie, lequel Bowie se rappellera avoir oublié de réviser les paroles de sa chanson et rater son playback.
The great trouble was that I forgot to learn to lip sync it, and it was a farce. I mean, I barely get through the song. They're frantically trying to remember the words as the thing's playing. Oh God, I should have learned this.
Dès le milieu des 70s, c'est bien sûr le disco qui sera le carburant magique de Soul Train, émission née, je le rappelle, à Chicago. Mais c'est aussi dans cette ville que le disco sera fustigé, honni et, provisoirement, enterré. Et ce, à l'instigation d'un certain Steve Dahl, le DJ d'une radio rock, qui décide d'organiser, le 12 juillet 1979, une disco Demolition Night dans un stade de baseball en mal de médiatisation. Incités par cet animateur à apporter leur vinyle de disco pour les détruire, des dizaines de milliers d'auditeurs rempliront le Comiskey Park où, dans une ambiance surréaliste et survoltée, exploseront sur le terrain des montagnes de disques. Un événement qui accompagnera le rejet de ce style musical que, par ailleurs, l'industrie discographique a exploité à l'époque jusqu'à la caricature. Dans le cadre d'un documentaire titré Disco Europe Express, j'avais eu l'occasion de rencontrer Leroy Gomez de Santa Esmeralda, qui fit un énorme succès d'une version flamenco disco de Don't Let Me Be Misunderstood, ainsi à New York que le DJ et mixeur culte Tom Moulton, l'alchimiste des Sigma Sound Studios. Ils nous donnent tous deux leur éclairage sur cette Disco Demolition Night.
Et il y avait des radios qui ont pris ça pour dire, voilà, disco est mort. Et pourquoi? Parce que comme l'Amérique, malheureusement, c'est très raciste, je crois qu'ils ont vu trop de gens de couleur qui sont en train de faire le succès. Et le country and western et tous ces trucs-là, c'était derrière. Mais à partir de ce moment-là, dans une période très courte, 2-3 mois, on ne pouvait plus parler de disco. Et c'était vraiment, c'est devenu underground.
Quand on travaillait sur Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor, ce disque vendait 10 000 exemplaires par semaine à New York sans aucun passage radio. Comment était-ce possible? Eh bien, parce que ça passait dans les clubs. Soudain, les radios étaient obligées de passer des disques qu'elles ne passaient pas en temps normal. Les radios ont décidé de reprendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce truc à Chicago. Et on va tout détruire, le disco ça craint, on va brûler tous les disques et on va faire ça. Quand on a l'habitude d'avoir tout ce qu'on veut, comment accepter la normalité? Ça marche pas.
Notre voyage à travers Chicago se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, apprécié, eh bien faites-le savoir, partagez-le et étoilez-le. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.